Bonjour, je m'appelle Claire Mathieu. Je suis chercheure en informatique. Je travaille sur les algorithmes au CNRS à Paris.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiante?
Je suis née à Caen et je suis une enfant de l'école publique, donc j'ai été dans le public toute ma vie en France. Et dans mes études primaires et secondaires, je dirais que le moment le plus intéressant, c'est quand j'étais au collège. À Caen, j'ai passé 3 ans, 6e, 5e, 4e, dans ce qui s'appelle maintenant le collège Stephen Hawking, qui est dans une zone REP plus de la banlieue de Caen, dans ce qu'on appelait autrefois le quartier de la Grâce de Dieu. Je me rappelle de ces 3 ans. En particulier parce que nous avions des professeurs qui étaient typiquement des professeurs jeunes. Souvent, ça pouvait être leur premier poste. Et ils étaient dynamiques, pleins d'enthousiasme et pleins d'idées pour essayer de faire passer, de nous enseigner des choses. Donc, nous avons fait toutes sortes de projets originaux, comme apprendre le français en créant des mots croisés, beaucoup de sorties culturelles. Et donc, j'ai gardé un excellent souvenir de ces 3 années. Ensuite, après les études secondaires, j'ai eu un parcours très classique, classe préparatoire à Paris. Puis j'ai eu la grande chance d'intégrer l'École normale supérieure, qui m'a permis de financer la suite de mes études pendant 4 ans. Ayant commencé en mathématiques, je me suis ensuite réorientée vers l'informatique, puis une thèse de doctorat en informatique. Voilà.
Quel a été votre parcours professionnel?
Après la fin de mes études de doctorat, je suis allée en postdoc aux États-Unis. Donc mon parcours professionnel a été vraiment partagé entre la France et les USA. Mon domaine de recherche est les USA sont très très en avance. Donc j'y ai passé beaucoup de temps, j'y ai fait des séjours fréquents, j'y ai travaillé pendant 10 années au cours de ma carrière. Donc en France, j'ai beaucoup bougé au CNRS, puis comme professeur à l'Université d'Orsay, puis comme professeur à l'École Polytechnique et à l'IUF, puis l'Institut Universitaire de France, puis aux États-Unis, puis retour en France au CNRS, bref, toutes sortes d'endroits. L'École normale supérieure de Lyon, j'oubliais. L'École normale supérieure de Paris.
Qui est une incontournable dans l'excellence des mathématiques françaises d'un point
Oui.
de vue à la fois historique, politique, puisque il me semble de mémoire, hein, c'était Napoléon qui avait favorisé l'apparition de cette école du côté de Lyon et qui est restée dans les mathématiques, je crois, l'une des premières sur les meilleures
Je ne sais pas, mais en tout
dans
cas, les écoles
l'histoire.
normales supérieures, c'est pour la formation des gens qui, a priori, se destinent à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et ça me convenait tout à fait parce que j'avais envie de faire de la recherche depuis mon enfance. J'ai été très marquée par l'influence des États-Unis sur ma carrière. Et puis en France, donc je suis rentrée en France il y a 12 années. Je pense qu'il y a eu un moment particulièrement important les années dernières. C'est lorsque j'ai eu une chaire au Collège de France qui m'a permis d'enseigner un cours sur l'algorithmique au grand public en 2017-2018. Le Collège de France à Paris, c'est une très vieille institution. Ça a cette particularité que il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'étudiants. Il n'y a que des professeurs qui font cours à qui veut. Tous ceux qui veulent peuvent venir assister à un cours au Collège de France. Donc quand vous enseignez, dans la salle devant vous, vous avez peut-être 50, 100, 200 personnes, n'importe. Et il y a une partie de gens qui sont des étudiants, peut-être en doctorat ou en master, dans des domaines divers. Une partie qui sont souvent des retraités qui viennent pour s'instruire parce qu'ils sont intéressés. Et une partie, ça peut être des SDF qui viennent parce qu'il fait chaud.
Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiante ou professionnelle qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière d'excellence?
Alors je pense que en classe de quatrième, nous avions un prof de maths, donc à Caen, au collège Stephen Hawking, qui encourageait beaucoup l'émulation. Donc j'étais bonne élève, j'étais bonne en maths. Nous étions quelques-uns dans la classe à être intéressés par les maths et à bien réussir. Et donc, il nous encourageait à faire des sortes de petites compétitions les uns contre les autres, à savoir quand on avait des contrôles. Donc, nous étions bons élèves, mais il ne suffisait pas de tout réussir. En plus, sur nos copies, il notait au bout de combien de temps on avait rendu la copie. Donc, il fallait non seulement avoir tout juste, mais le plus vite possible. Et donc, ça nous plaisait bien. On était bons amis et ça faisait une saine émulation entre nous. Donc ça m'a stimulée. Ensuite, en maths sup, j'ai eu un prof de maths qui m'a fait découvrir les mathématiques en prépa. Et c'était la première fois de ma vie que j'étais dans une classe où la plupart des gens s'intéressaient vraiment aux maths, ça leur plaisait. Et donc pendant notre temps libre, on se retrouvait pour réfléchir à des exercices de maths ensemble parce que ça nous intéressait, pour nous distraire en quelque sorte. Et ensuite, à l'école normale supérieure, j'ai eu un cours d'informatique que j'ai suivi au départ avec réticence, parce que je ne connaissais pas l'informatique et ça ne m'intéressait pas. Et puis ensuite, ça m'a enthousiasmée, et c'est à cause de ce cours que je me suis réorientée vers l'algorithmique.
Alors, quel est votre domaine de recherche actuel ?
Je travaille sur les algorithmes.
Alors, comment définir simplement ce qu'est un algorithme, à la fois sous son aspect historique, qui est incontournable, mais aussi ses liens avec l'informatique, puisque l'informatique est l'une des grandes découvertes du XXe siècle et l'une des filles des mathématiques, si je puis m'exprimer ainsi.
Alors l'informatique a, je dirais, un père et une mère. Hein, c'est, d'un côté, il y a les maths, mais de l'autre côté, il y a l'ingénierie. Donc, on le voit d'ailleurs dans les départements d'informatique, leur création, c'est aux États-Unis, soit ils sont issus des départements de Electrical Engineering, le génie électrique, soit ils sont issus des départements de maths. Et c'est vraiment la rencontre entre les deux, que naît l'informatique. Donc, les algorithmes font partie de l'informatique, et c'est... Ce qui m'a plu au départ dans les algorithmes, c'est l'aspect très concret. C'est-à-dire qu'en maths, on veut résoudre des problèmes, on vous demande est-ce qu'il existe tel ou tel objet, et on fait une démonstration, mais souvent ça peut garder un côté abstrait. Alors qu'en algorithmique, on vous demande non pas si quelque chose existe, mais comment faire pour le construire. Et donc il s'agit de faire une construction, pas à pas, et donc pour moi, c'est très concret. Et donc, si on veut une analogie ou un cas particulier d'algorithme dans la vie courante, si vous regardez une recette de cuisine, donc vous ouvrez votre livre de recettes, il vous décrit comment faire un gâteau à partir des ingrédients par une suite d'étapes simples, ce qui vous permet, même si vous ne saviez pas avant comment faire la cuisine, juste de suivre les instructions pas à pas pour obtenir à partir des ingrédients, un gâteau qui soit bon à manger. Et donc ça, ce principe d'expliquer comment obtenir le résultat désiré par une suite d'instructions élémentaires qu'on peut suivre pas à pas, ça c'est un algorithme. Et qui est-ce qui suivra ces instructions ? Ce sera l'ordinateur. Comment pourra-t-il suivre ces instructions ? Parce que l'algorithme sera traduit dans un programme, dans un langage que l'ordinateur peut comprendre. Donc l'algorithme, c'est la description pas à pas dans un langage naturel, le français, l'anglais, un langage que l'humain peut comprendre, mais qui est suffisamment détaillé pour pouvoir être traduit en un programme que l'ordinateur peut comprendre.
Alors, quels sont les challenges de l'algorithmique aujourd'hui ? Pouvez-vous nous citer 2 à 3 exemples ?
L'une des questions qui se pose actuellement en algorithmique, c'est que le numérique envahit la société. C'est clair, nous sommes en passe de transformation en société numérique. Et donc, il ne s'agit plus seulement de concevoir des algorithmes pour faire des calculs très rapidement sur des grosses machines qui font des études de physique fondamentale, par exemple, mais il s'agit maintenant de concevoir des algorithmes qui ensuite donneront lieu à des applications qui ont un impact direct sur toute la société, des algorithmes sociétaux. Et donc là, ça change l'aspect des algorithmes. C'est-à-dire qu'autrefois, ce qu'on voulait, c'est avoir des algorithmes corrects, rapides, et qui n'utilisent pas trop de mémoire. Maintenant, en plus, on veut des algorithmes qui soient adaptés aux personnes. Par exemple, si vous prenez la plateforme Parcoursup pour l'orientation des étudiants dans l'enseignement supérieur, cette plateforme, elle est basée sur l'algorithme de Gell-Shepley, comme on dit. Et cet algorithme, pour que ce soit acceptable, il faut qu'il puisse être présenté aux gens de manière convaincante. Et il y a en plus des propriétés d'équité qui interviennent. Donc il y a d'autres aspects, d'autres dimensions qui interviennent quand on a des algorithmes sociétaux. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, là, vous savez bien qu'actuellement, on ne parle que d'intelligence artificielle. Les progrès récents de l'intelligence artificielle sont dus aux avancées sur les réseaux de neurones profonds, enfin en grande partie, et donc c'est une catégorie d'algorithmes qui là est basée sur l'exploitation de données et la compréhension de données. Et donc ici, on est dans un cas de figure où les développements algorithmiques ont précédé la compréhension fondamentale du problème. Et donc maintenant, la question pour un chercheur comme mes collègues chercheurs, c'est de comprendre la structure, les propriétés sous-jacentes qui expliquent l'efficacité de cette famille d'algorithmes.
Dans le cadre que vous avez cité, d'un point de vue de réseau de neurones, vous faites allusion à quelle spécificité? C'est les neurones miroirs? C'est quel...
Alors, je pense au deep learning,
d'accord.
À l'apprentissage automatique, je pense au large language models, aux IA génératives pour écrire du texte, aux transformers, qui sont un type spécial de réseaux de neurones utilisés pour aider à comprendre le langage. Voilà le genre de choses auxquelles je pense.
Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais lorsque nous regardons attentivement, on se rend rapidement compte que tout le monde n'est pas sur la même compréhension de ce que représente l'intelligence artificielle. Dans le cadre de la population mondiale, beaucoup semblent craintifs, méfiants de peur de perdre les supports liés au savoir qui ont permis l'apparition, la réalisation pleine et entière d'hommes et de femmes savantes, exceptionnelles et remplies d'humanité.
Oui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Récemment, j'ai eu l'occasion de parler avec le rabbin Haïm Korsia, qui a avancé une idée qui m'a assez plu, comme quoi ces outils devaient être à notre service et qu'on devait garder, ne pas en devenir dépendant, c'est-à-dire garder la capacité à se débrouiller sans, le cas échéant. Donc il faut garder la compétence, la capacité
à... La préservation de ces problèmes.
Vous avez fait un travail très intéressant sur le plafond de verre. Dans les réseaux sociaux, est-il possible de nous rappeler ce que représente le plafond de verre? Est-ce que vos travaux ont permis une véritable visibilité des femmes compétentes et un véritable accès aux postes à responsabilité? Dit autrement, avez-vous brisé le plafond de verre?
Le plafond de verre est défini depuis longtemps dans toutes les organisations hiérarchiques. Donc, il décrit ce qui empêche une catégorie de personnes, les femmes par exemple, enfin, c'était notre exemple, d'accéder au poste en haut de la hiérarchie proportionnellement à ce qu'on attendrait, étant donné le nombre de femmes qu'il y a dans le milieu. Alors, ce que nous avons fait, notre travail, ça a été un travail théorique. C'est de la modélisation. Quand on parle de réseaux sociaux, en général, on pense à un milieu qui n'est pas naturellement hiérarchisé. Tout le monde peut intervenir. Mais, dans les réseaux sociaux, on voit émerger des gens qui ont davantage d'influence que les autres. Donc, peut-on définir une notion de plafond de verre là-dedans. Et nous, nous avons pris un réseau particulier, nous nous sommes intéressés au réseau académique, au réseau de collaboration entre chercheurs, parce que nous avions des données sur les copublications. Et nous avons essayé, nous avons postulé que l'importance, l'influence d'une personne dans ce réseau social particulier était proportionnelle à son nombre de collaborateurs. Autrement dit, les personnes qui ont le plus d'influence sont celles qui travaillent avec le plus de monde. Donc ça, c'est d'où question de plafond de verre. On peut regarder la distribution des gens, ceux qui ont, selon leur nombre de collaborateurs, les gens qu'ils ont formés en particulier, les étudiants qu'ils ont eus. On peut regarder les personnes qui sont en haut de cette sorte de pseudo-hiérarchie, c'est-à-dire ceux qui ont le plus formé le plus de monde, et on peut se demander, est-ce que là, il y a un phénomène de plafond de verre? Est-ce que, si on regarde par exemple les femmes, est-ce que parmi ceux qui ont le plus d'influence en ce sens, est-ce qu'il y a le nombre de femmes qu'on attendrait? Donc, nous avons regardé les données dont on disposait sur un certain type de publication, et la réponse est non. La réponse, il y a un plafond de verre, il y a moins de femmes que ce qu'on attendrait parmi ceux qui ont le plus d'influence. Alors après, on s'est dit comment l'expliquer. Et donc nous avons proposé un modèle. Donc on est allé voir de la littérature en sociologie qui propose qui fait des postulats. Par exemple, ce qu'on appelle « the rich get richer ». On ne prête qu'aux riches. Nous avons traduit ça dans ce cadre en disant, quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans le système, avec qui cette personne va-t-elle collaborer? Elle sera naturellement attirée, plus attirée, par ceux qui ont déjà beaucoup de visibilité. Donc une nouvelle personne ne va pas se connecter, essayer de collaborer avec une personne au hasard, mais plutôt avec la personne qui a déjà beaucoup de collaborateurs. Donc ça veut dire qu'il y aura un biais, une tendance à ce que les nouvelles connexions soient avec une nouvelle collaboration, avec ceux qui ont déjà beaucoup de collaborateurs. Donc on a pris trois postulats de ce type, on les a traduits en équations mathématiques, et on a démontré que si vous avez un système où ces trois équations, ces trois phénomènes arrivent, alors on a une évolution qui naturellement conduit à l'émergence d'un plafond de verre. Voilà. Alors donc, en ce qui concerne l'impact pratique, il est nul. Il est nul. C'est uniquement théorique.
Parce que, en fait, c'est ce sur quoi la population très majoritairement attend, oui. C'est le côté concret. Et oui. Ça me faisait rebondir à ce que vous soulignez, oui. Par la dimension, l'esprit, oui. De ce que signifiait l'algorithme. Oui. C'est le rapport au concret que vous-même, oui. Vous avez, oui. Anticipé, enfin, vous, oui. Avez, vous êtes engagé dans une carrière sur l'algorithmie, oui. Par rapport à ce rapport au concret. Oui. Et c'est surtout ça.
Sur le travail sur le plafond de verre, c'est un travail théorique. Donc on pourrait dire que ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas eu d'impact direct, mais d'un autre côté, c'est un travail utile comme tout travail théorique parce qu'il permet c'est un effort pour comprendre. Donc essayer de décrypter, proposer des explications possibles, démonter un phénomène, et à quoi est-ce que ça sert de comprendre? Eh bien ça sert si ensuite on veut agir. Quels sont les leviers d'action? On peut se dire voilà, tel facteur contribue à l'apparition du plafond de verre, donc essayons d'agir directement sur ce facteur-là. Donc la compréhension des causes est importante pour essentielle pour pouvoir agir ensuite.
Avec un travail, je le souligne, que vous rappelez souvent aussi, c'est que vous travaillez avec des spécialistes des différents domaines et notamment des sociologues, c'est-à-dire que vous vous fiez aussi à une réflexion au minimum, bien entendu, de la considération des écrits de certains sociologues.
Disons que j'ai eu l'occasion de travailler avec des chercheurs d'autres disciplines, et à chaque fois, ce dont je me suis rendu compte de manière patente en travaillant avec eux, c'est qu'ils ont une expertise que je n'ai pas, et le rapport est indispensable pour pouvoir faire un travail intradisciplinaire. Oui. Interdisciplinaire. ou transdisciplinaire.
Alors, vos travaux sont-ils applicables à la diversité visible des Français issus de l'immigration après plusieurs générations de présence sur le territoire, que l'on voit pleinement actif et engagé au sein de notre société, incontestablement, mais beaucoup moins visible dans les postes à haute responsabilité, comme les professeurs d'université, directeurs, directrices de start-up, dans le spatial notamment, puisque l'actualité c'est le New Space, directeurs et directrices d'observatoires astronomiques, et j'en passe.
Je pense que là, ce problème me dépasse de beaucoup. Tout ce que je peux dire, c'est que dans le cadre restreint de notre étude, ce qu'on a dit sur les femmes, ça s'applique de la même manière sur les autres, les autres catégories qui sont présentes en minorité. On a essayé de faire une validation en regardant les données de publication et en regardant le genre pour voir le nombre de femmes. Et ça, c'est beaucoup plus difficile en ce qui concerne, l'origine des gens, parce que ça, c'est plus difficile à percevoir. On n'a pas de comment accéder à ces données. Ça, ça me semble une question de recherche en elle-même, en fait. Je pense que les données manquent pour valider.
Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et les mathématiques en particulier ?
D'abord, j'aime bien cette question. Ça me fait toujours plaisir quand je vois un jeune qui s'intéresse à l'informatique, aux maths, aux sciences. Prenons un exemple. Il y a quelques années, je discutais avec un jeune d'un quartier et je lui demande ce qu'il aime bien à l'école. Il me dit « j'aime bien les maths ». Tout de suite, ça m'intéresse. Je dis « ah oui, et qu'est-ce que tu aimes d'autre ?» Il me dit « bah, j'aime bien aussi la physique et l'informatique ». Parfait, j'étais toute contente. Et puis en discutant, je lui dis « alors qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ?» Il me dit « oh, j'aime bien les sudokus ». Des jeux logiques, avec un aspect mathématique fort. Donc là, je me suis dit, voilà, voici un jeune garçon intéressant, de mon point de vue. Et je lui dis, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Et il me dit, ben, je ne sais pas trop, soit comptable, soit astrophysicien. Il était en classe de première. Alors le soir, je rentre chez moi, je réfléchis, je me dis, ah, c'est quand même dommage, il est... dans un lycée public, dans une zone défavorisée, où il a des très mauvaises conditions d'apprentissage. Je lui ai dit, en maths, est-ce que tu apprends bien en classe ? Il m'a dit non, parce que j'ai du mal à entendre. Je lui ai dit, mets-toi au premier rang. Il me répond, mais je suis déjà au premier rang. Je lui ai dit, mais vous êtes nombreux dans la classe ? Il m'a dit, 14. À suivre le cours de maths avancé. Mais on n'est que trois à essayer de suivre, tous les autres, ils font du bruit. Donc voilà, un jeune homme qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des belles études scientifiques, mais qui est dans un contexte défavorable. Donc le soir, j'ai regardé sur Internet, j'ai découvert une sorte de colonie de vacances pour les jeunes qui s'intéressent aux sciences. Pas de niveau minimum scientifique requis, juste le fait de s'intéresser aux sciences. Et il y avait deux camps de vacances. L'un, c'était les maths. L'autre, c'était maths, physique et sciences. Passer une dizaine ou une douzaine de jours en Auvergne ou dans les Alpes, je crois. Et passer les matins à faire de la science, l'après-midi à faire du sport ou des sorties. Je l'ai prévenu. Il a envoyé sa candidature avec une lettre de son prof de maths. Il a eu une place. Et il est allé pendant les vacances faire ce camp de vacances. Et je me dis... à la fin de la première, c'était fait pour les élèves de première. Ça permet aux enseignants de discuter avec eux d'orientation, et l'année suivante, quand ils font leurs vœux sur Parcoursup, ils ont une meilleure idée de ce à quoi ils pourraient postuler, étant donné leurs intérêts.
Les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société, et pourquoi ?
La science, dans notre société, il y a un problème de défiance entre la science et les citoyens, entre les scientifiques et le gouvernement, un manque de compréhension mutuelle, je dirais. Il y a une séparation. Il faut rapprocher la science des citoyens et la science des gouvernants. Comment faire pour rapprocher ? On peut essayer individuellement, hein. Mais en fait, quand on est en association, c'est beaucoup plus utile pour, d'abord pour réfléchir ensemble à ce qui est important en science, à ce qu'on peut faire, à comment on peut agir, pour se former mutuellement, pour prendre un peu de recul sur son domaine et ses impacts. Donc je pense que les associations sont très importantes pour nous scientifiques, pour comprendre ce que nous faisons, et puis très importantes par ailleurs pour le lien avec le reste de la société.
Merci.